La semaine dernière, Catherine vous a demandé sur les réseaux sociaux si vous étiez intéressé de savoir à quoi ressemble notre travail dans l'aventure Catherine Apsi. Et à ma grande surprise, vous étiez 90% à vouloir savoir comment ça se passe en coulisses. Soit. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode un peu particulier, car on ne parlera pas directement de psychologie, mais on va plutôt vous emmener en backstage et on va parler un peu plus de nous. Et nous allons tout vous dévoiler. Quel est le rôle de chacun, comment est-ce que nous créons nos ateliers et comment on fait pour proposer autant de contenu sur une multitude de plateformes. Nous allons même parler gros sous sans détour avec nos frères récurrents et si Catherine Lapsi est finalement un projet rentable pour nous. Allez, c'est parti, bande de petits curieux et bande de petites curieuses pour cet épisode où on se met à nu. Alors, on vient de terminer notre nouvel atelier. Donc, c'était un atelier à destination des professionnels et on a passé beaucoup de temps déjà à la création et ensuite à...
Mais il a un mois de retard même d'ailleurs par rapport à ce qu'on pensait. Ouais.
Il a un mois de retard. Donc, on a bossé, on a cravaché comme des dingues et on est crevé.
Comme à la fin de chaque atelier. En fait.
On est rincé. Donc, du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est un épisode un peu vacances.
Voilà.
C'est un peu le thème. Et voilà, donc on va vous présenter un peu les coulisses de Catherine Lapsi. Qui fait quoi? Comment on travaille?
Est-ce que c'est rentable? C'est les questions que les gens avaient posées sur Instagram quand j'avais demandé si ça intéressait comme sujet. Donc, est-ce que c'est rentable?
Ils veulent savoir si on va avoir une nouvelle piscine.
Est-ce qu'on va avoir une nouvelle piscine? Est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps encore?
Si on va creuser un jacuzzi dans notre bureau, etc.
Normal. Il y en a des gens qui nous font la cuisine chez nous.
Voilà, normal. On va peut-être commencer à partir de cet atelier parce que voilà, ouais. Déjà comment ça se fait la phase de conception d'un atelier. Parce que forcément, on voit surtout toi, Catherine, parce que
ouais.
C'est Catherine la psy et c'est toi qui es psy. Moi, je suis plutôt
l'homme de l'ombre. Mais sans toi, tout ça, ça n'existait pas, hein, clairement. Voilà. Comment ça commence? Déjà, on se dit, on a l'audience qui nous a proposé des sujets, qu'est-ce qu'on fait?
Et voilà,
quel thème on choisit? Et là, déjà, on se prend le chou parce qu'on n'est pas d'accord, mais non, c'est ça qui va plus les intéresser. Et en fait, au début de cet atelier, on n'était pas du tout parti pour faire ça. Donc, c'était au mois de... Parce qu'en général, il nous faut 2 ou 3 mois pour avoir un atelier, du moment où on commence à bosser dessus jusqu'à ce qu'il sorte, qu'il soit lancé. Donc là, le dernier, il a été lancé la semaine dernière. Dimanche. Donc, il y a 3 jours. Et en fait, on était parti pour faire un atelier sur l'éco-anxiété, tu te rappelles?
Oui, l'éco-anxiété. Et effectivement, après, on a fait un sondage.
Je ne sais pas pourquoi ça nous est venu cette idée de dire, finalement, est-ce que c'est vraiment un bon sujet? Enfin, un bon sujet, on est sûr. Enfin, en tout cas, on sait que... Moi, je sais que ça touche pas mal de mes patients. Je sais que vous aussi, vous m'en parlez... Enfin, vous nous en parlez sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un sujet qu'on s'était... qu'on trouvait intéressant. D'autant que Fabien et moi, on est assez, on pourrait dire, engagés écologiquement. Donc du coup, c'était un sujet qui nous semblait intéressant. Puis je sais pas, à un moment donné, on s'est posé la question, on a fait un sondage.
Et finalement, on s'aperçoit que notre audience ne nous a pas suivis. Et donc, en revanche, il y avait pas mal de gens qui, eux, étaient motivés pour avoir un atelier professionnel sur ta façon de travailler, à toi, Catherine, sur la création des plans de traitement.
Oui, parce que j'avais montré notamment à plusieurs reprises... Alors déjà, parce que moi, je travaille avec un plan de traitement et j'en parle régulièrement, donc des fois il y a des gens qui me posent des questions, mais de temps en temps je montre une partie de mes fichiers diagnostiques et il y avait beaucoup de gens qui me disaient mais est-ce que tu pourrais nous les partager et tout ça. Alors comme j'avais dit, il y a plein de trucs qu'on partage gratuitement, il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a, c'est que si on veut pouvoir continuer à faire ça, comme on y passe, on calculait hier, on s'est dit, à nous deux, à toi plus moi, on est à peu près à une quarantaine d'heures par semaine, on est sur un plein temps, en fait.
Ouais, plus qu'un plein temps, si on part sur 35 heures.
Voilà,
ouais.
Donc pendant ce temps-là, en fait, on ne travaille pas. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, moi, je ne suis pas au cabinet, pendant ce temps-là, toi, tu n'es pas en train de donner tes formations, donc c'est vraiment un plein temps. Au bout d'un moment,
dédié à ça.
Dédié à Catherine Lapsi. Donc il faut qu'à un moment donné, on ait quand même une rémunération. Parce que on est comme tout le monde, on a une maison à payer, on a
à manger,
tout ça. Donc on a notre vie de famille aussi. Donc quand on m'a demandé ça, j'ai dit ça m'a fait mal au cœur parce que en fait c'est des dossiers de diagnostic que j'ai mis 6 ans à construire, qui sont toujours en évolution.
6 ans et puis en plus quelque part tu investis indirectement aussi dessus puisque ils sont issus de formation. Donc,
oui,
quelque part c'est aussi du temps que tu as dépensé, d'énergie, ouais. de l'argent que tu as dépensé pour arriver à ces résultats-là.
Ouais, tout à fait. Donc quand on m'a posé la question la première fois, j'ai dit non, je me sens pas, franchement, j'ai beaucoup bossé dessus et tout. Enfin, autant on peut donner plein de trucs, mais là. Et puis on m'a posé tellement de fois la question que dans le sondage, on a dit écoutez, je peux vous les partager, je vous explique comment ils marchent, je vous explique comment créer les vôtres avec vos approches. Et on fait ça dans le cadre d'un plan de traitement, parce que moi, c'est des dossiers diagnostiques qui me servent à faire mon plan de traitement pour mes thérapies.
Juste comme ça, hein, pour ceux qui ne savent pas, un plan de traitement, En fait, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert pour ceux qui sont pas psy ou qui suivent pas des
C'est la guideline de la thérapie. Alors, il y a certaines approches qui disent qu'elles en ont pas. Alors, cela dit, avec tous les bouquins que j'ai lus là, dernièrement justement là-dessus, certains auteurs n'étaient pas d'accord. Ils disaient, même en psychanalyse, où ils estiment qu'ils n'ont pas de plan de traitement parce qu'on laisse venir dans la libre association, en fait, eux, ils considèrent que même en psychanalyse, les thérapeutes ont une sorte de plan de traitement. Enfin bon, après, ça, c'est leur vision des choses. Mais sinon, dans certaines approches de thérapie, tu as vraiment des étapes par lesquelles voilà, on considère que on doit passer entre guillemets, alors je dis entre guillemets parce que c'est faut pas que ce soit rigide, bien sûr on s'adapte au patient, donc on va modifier le plan de traitement en fonction de plein de critères du patient, mais voilà,
c'est pas de la pâtisserie où il faut suivre exactement des règles.
Bah quand même, si, un peu, si, ça pourrait être comme de la pâtisserie, parce que t'as les règles de base, donc t'as ton plan de traitement de base, t'as ta recette de base. Par contre, bah en fonction de, je sais pas moi, si t'as quelqu'un qui mange pas de gluten ou quelqu'un qui doit manger sans sucre, sans sel, machin, bah tu vas adapter. Bah si je trouve que c'est une très bonne
okay. Voilà.
Mais par contre t'as quand même ta recette.
D'accord.
Donc voilà, donc c'est
donc,
ça.
Et là où c'est le bordel, c'est que si tu as plusieurs
voilà,
approches, bah, tu prends laquelle.
Voilà, c'est ça. Bah, si je garde ta métaphore de la recette, c'était si tu as trois recettes différentes de la même pâtisserie.
Cheesecake.
De ton cheesecake. C'est un des desserts préférés de Fabien. Voilà, bah, laquelle tu choisis, ou bien est-ce que tu peux les mélanger, les mixer, comment tu t'y prends, voilà.
Ou est-ce que tu fais des crêpes, quoi.
Est-ce que tu fais des crêpes.
Finalement.
Donc voilà, donc le plan traitement, ça sert à ça. Donc du coup, pour les étapes, donc voilà, on était parti là-dessus. Ensuite, on a fait le sondage. Alors c'est un peu con parce qu'on avait quand même déjà commencé à bosser sur l'atelier anxiété.
Et oui, quoi, anxiété, on a bossé pas mal, ouais, dessus.
On avait quand même, mais bon, voilà, on s'est dit, toujours le même truc en fait, c'est que si on veut pouvoir continuer à faire tout ce qu'on fait, il faut qu'on ait à un moment donné une forme de rémunération. Et là, l'éco-anxiété, vu le sondage, on s'est dit, bah en fait non, ça va pas nous rémunérer, donc malheureusement, bah on l'a pas fait.
Ça sera pour plus tard, peut-être.
Bah peut-être, ou ouais, ça dépend à nouveau combien de temps. C'est tout une question de, entre guillemets, de rentabilité. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle rentabilité, hein, l'idée. Alors on n'est pas Rothschild, hein.
Alors l'idée de rentabilité, elle existe quand même parce que en fait, on ne sort pas beaucoup de produits par an. En général, on en sort deux principaux.
On n'a pas la disponibilité d'esprit pour ça.
Voilà, on peut pas en faire plus de toute façon. Donc
si on faisait que ça, on pourrait.
Voilà. Donc en fait, il faut que ça marche. Il faut que notre atelier trouve son public. Sinon, on peut pas se permettre de faire un coup d'épée dans l'eau. Sinon, après, on est vraiment.
Enfin, ça pourrait arriver. Jusqu'à présent, ça nous est pas arrivé. Mais si ça arrivait, effectivement, il faudrait qu'on réfléchisse à voilà, oui, parce que si on n'a pas ces rentrées-là, il faut qu'on aille. Moi, je peux pas spécialement travailler plus parce que je travaille déjà beaucoup au cabinet. Cela dit, je pourrais faire de la visio en plus, mais toi, c'est surtout toi que tu peux prendre beaucoup plus de formations si jamais tu fais pas ça.
Ah oui, effectivement, moi, je refuse des formations parce que moi, je suis développeur et je donne des cours à des programmeurs dans des entreprises. Et sur des technologies. Et donc je refuse certaines fois certains projets parce que, tout simplement parce que j'ai Catherine la psy, qu'il faut que je fasse vivre et que je n'ai pas forcément même au niveau des ateliers, mais par exemple rien qu'enregistrer ce podcast et ensuite le monter, ou les vidéos YouTube qui sont extrêmement chronophages, ou les innombrables Reels.
Ouais, puis l'écriture de la lettre psy.
La lettre psy, donc ça fait énormément de médias sur lesquels il faut produire. Donc je ne peux plus donner de formation, je ne peux pas donner autant de formation que je voudrais, et non plus je ne peux pas prendre, je ne pourrais pas aller travailler dans une entreprise en tant que freelance ou en tant qu'employé.
On ne pourrait pas faire 4 ans de la psy ensemble.
Ça serait juste pas possible. Donc j'ai la chance de pouvoir donner des formations qui, moi, me permettent d'alterner le travail entre Catherine la psy et le développement. Et ça fait qu'au final, je suis, en termes de rémunération, moi, je pense que je suis à peu près un peu plus de la moitié de ce que je touche vient de Catherine Napsi.
Mmh. Ouais. Après, tu disais, je dois refuser, mais c'est aussi que, enfin, faut qu'on rappelle aussi que c'est un choix. C'est-à-dire que tant que ça nous permet de vivre, on va dire un peu plus sur comment, quoi, qu'est-ce, mais tant que ça nous permet de vivre, nous, on aime faire ça.
Ah oui,
c'est-à-dire,
oui,
voilà, c'est un boulot qu'on aime. C'est juste qu'on veut dire, c'est que par contre, effectivement, il faut que ça nous rémunère un minimum parce que si ça ne nous rémunérait pas, on serait obligé, comme dit Fabien, de prendre plus de travail. Alors après,
le travail classique, on va dire, dans notre domaine, parce que on prend déjà beaucoup de travail. Catherine Napsi, c'est énormément de boulot.
Oui, c'est ça, c'est énormément de travail. Parfois, on nous dit, mais vous faites énormément de choses, vous publiez sur plein de médias, vous faites la lettre psy, vous faites le podcast, vous faites YouTube et Instagram. Effectivement, donc c'est nos 4 médias et après on se rémunère avec les ateliers en ligne. Mais en tout cas, là où on en est arrivé de notre réflexion, parce que donc ça fait 3 ans maintenant qu'on fait ça, bientôt, en septembre,
oui.
C'est qu'en fait, si on veut que ça nous rémunère suffisamment, et ben on est obligé de faire tout ça. On a des collègues qui font beaucoup moins, mais du coup, ils ont moins de rémunération. Donc, ils ne peuvent pas y passer l'équivalent d'un plein temps. Donc, en fait, c'est toute une question de... Parfois, nous, au tout début, on a suivi des formations sur comment vendre des formations ou des ateliers en ligne, parce que nous, c'est pas que des formations. Des fois, c'est vraiment du travail perso sur soi, en fait. Donc, nous, on ne considère pas vraiment ça comme des formations, mais on a suivi des formations sur comment faire ce qu'on fait. Et en fait, ça avait l'air d'être hyper facile. On en parlait encore hier. On avait suivi Antoine BM, et tu as l'impression qu'en fait, tu as juste besoin de faire 2-3 trucs, et puis voilà, ça va super marcher. Non, enfin, en tout cas, dans la durée, ça ne marche pas comme ça. En plus, nous, on est dans une, entre guillemets, une niche qui n'est pas une niche, justement, c'est-à-dire qu'il y a du monde qui fait du contenu sur la psychologie. Donc, non, c'est pas si simple que ça. C'est vraiment, enfin, en tout cas, nous, c'est notre expérience. Nous, il faut, si tu veux que ça rémunère un peu, et encore un peu, c'est pas, voilà, il faut que tu fasses plein de trucs. Il faut publier sur tous ces médias, en fait.
Voilà, il faut publier sur plusieurs médias parce que déjà, peut y avoir un média qui disparaît, comme oui. Par exemple, si on était sur Twitter, ça commencerait à sentir pas très bon, par exemple.
Instagram, ça commence à sentir pas bon non plus.
Instagram, là, il y a Threads qui arrive, donc qui est lié à Instagram, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, les réseaux sociaux peuvent changer leurs algorithmes, peuvent décider d'arrêter de nous mettre en avant.
D'ailleurs, ça a été le cas. Là, j'ai l'impression que c'est en train de changer. On a beaucoup plus de visibilité en story, mais pendant longtemps, en story, c'était une catastrophe.
Voilà, donc en fait, on n'est pas sûr que quand on va vous proposer du contenu, vous allez le recevoir, tout simplement. Donc, travailler, et en plus, pour une cible qui ne verra pas notre contenu, c'est extrêmement frustrant.
C'est pour ça que pour nous, on met beaucoup d'investissements dans la lettre psy, parce que là, oui, par contre, on sait que l'audience est touchée, puisque vous les recevez dans votre boîte mail, même si tout le monde ne l'ouvre pas, on a quand même un bon taux d'ouverture.
Donc, on est à plus de 50%, donc voilà. Quand on...
On touche parfois les 60, c'est bien.
Ouais,
pour 10 000 abonnés, il paraît que c'est très bien.
Ouais, donc il y a entre 5 et 6 000 personnes qui ouvrent notre lettre psy. Ça fait plaisir de savoir qu'on est lu. Et puis voilà, donc on s'organise pas mal là-dessus, on essaie de ramener pas mal de gens sur la lettre psy, qui en plus est l'endroit où tu mets ton contenu le plus...
On résume ce qu'on a fait dans la semaine, en fait.
On résume, mais aussi tu proposes du contenu inédit qui est en général assez pointu, donc c'est moins réseaux sociaux où il faut que ça soit impactant rapidement.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est toute une machinerie, en fait. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ce qui est fatigant, c'est que les algorithmes font que si tu publies pas assez, alors déjà qu'ils proposent à peu près 10% de ton audience ce que tu fais, mais si en plus tu publies pas assez, alors là tu peux descendre à 1 ou 2%, quoi. Alors après, il y a des période où on est fatigué, on n'en a plus rien à foutre. De toute façon, on a quand même diminué, parce qu'en fait, sur Instagram, à une époque, on publiait beaucoup. À un moment donné, t'es fatigué aussi, quoi. Donc, tant pis. Il y a des périodes où la visibilité, tant pis. Et ça touche quelques personnes, c'est déjà bien si ça peut aider certaines personnes.
Voilà, alors en termes d'organisation du travail, donc là, on était parti sur l'atelier. On vous expliquera après notre processus de travail pour, la production des contenus de Catherine Lapsy. Mais là, vu qu'on était sur l'atelier, et on a un petit peu dévié, mais... Comment est-ce qu'on commence ? Donc déjà, on a fait un sondage pour celui-ci.
Voilà.
Ensuite,
on a choisi le thème, en fait.
Voilà, thème, et ensuite, il y a une grande partie où là, c'est Catherine qui travaille, parce qu'elle commande beaucoup de livres.
du coup, je reprends, déjà, je fais le bilan des connaissances que j'ai déjà sur le sujet, et puis après, comme moi, j'ai à cœur de proposer des sources d'approfondissement, et puis surtout, moi, ce qui m'importe, c'est vraiment la recherche, quoi, parce que faire chacun ses trucs dans son coin, je trouve problématique. Il y a des gens qui font de la recherche sur tous ces sujets. Alors, selon les sujets, il y a plus ou moins de recherche, et c'est plus ou moins facile. Et bon, voilà, donc je lis pas mal d'études, des bouquins qui ont des études, des gens qui ont étudié le sujet, etc. Donc, effectivement, la phase 2, c'est j'achète plein de bouquins, voilà. Je surligne plein de trucs.
Tu surlignes plein de trucs et tu me donnes des études en anglais à lire,
à résumer, parce
et
que
à me casser la tête parce que c'est pas forcément bien simple tout ça.
Voilà, donc du coup, quand j'ai beaucoup de trucs, je sélectionne en fait les sources. sur lesquels j'ai besoin d'aide. Quand c'est très très spécifique, bah, bien sûr, comme Fabien, c'est pas son métier, la psy, je les lis moi et je les résume moi. Et puis quand je me dis que ça peut être un peu plus facile à lire pour quelqu'un qui n'est pas du métier, bah, effectivement, je te donne une liste d'études sur PubMed à lire et je te demande de me les résumer.
Ensuite, il y a la phase d'élaboration du plan.
Donc là, je construis le plan.
Que tu construis, que tu me fais souvent valider pour vérifier qu'il y a bien une ligne directrice,
logique, ouais.
Une logique là-dedans. Et puis une fois qu'on a réussi à faire tout ça...
Donc je te fais, par contre, les PDF à ce moment-là.
Oui,
alors là, c'est un enfer pour toi, parce que moi, je ne suis pas du geek du tout.
Alors, j'ai pas droit à un document bien fait, tout ça. Non, c'est juste, en général, un bout de papier, un bout de feuille de brouillon fait sur un coin de table avec des schémas raturés dans tous les
sens. Sur un coin de table, parce que je me tords la tête pour les faire et tout, mais ils sont très moches, effectivement, ils sont faits à la main.
Ça se sent que tu te tords la tête, donc je le fais une fois, Catherine les corrige. Et en fait, cette phase-là, elle a duré combien de temps? Elle a duré pratiquement 3 mois.
C'est la plus longue, hein. En fait. Oui, elle dure peut-être... Non, je dis, ouais, peut-être, ça dépend de ma
pas
fatigue.
Pas les PDF, mais on va dire l'étude.
Ça dépend
l'étude générale,
de ma fatigue.
L'élaboration du plan...
Ouais, voilà.
Ça a bien mis 3 mois, même si à la fin, bah, j'étais un peu pressé pour que tu enquilles un petit peu et qu'on sorte enfin cet atelier. Et une fois qu'on a fait tout ça...
Il faut filmer.
Il faut filmer. Et bien là, c'est vrai que notre atelier, il fait 5h30...
Ah, celui-là, c'est le plus long qu'on ait jamais fait.
5h30 de vidéo, ouais, il est sacrément dense.
Mais celui sur l'attachement était déjà assez long, je crois qu'on a 4h30 aussi sur l'attachement.
Ouais, ou 4h30 ou 5h, je sais plus. Alors là, c'est vrai que en général, Catherine, je filme Catherine, j'enregistre avec le micro, donc il y a plein de ratés. Donc peut-être que sur les 5h30, il doit y avoir 10 heures de film.
10 heures, tu penses,
ouais. C'est quasiment...
C'est vrai que je suis... Bon, après, si vous avez l'habitude, si vous me connaissez, vous savez que je suis un peu du genre à partir dans tous les sens. Donc quand Fabien est là, il me recadre, mais parfois, quand il y a des trucs très techniques, bon, bah, il va bosser à côté, il me prépare tous les trucs d'enregistrement, parce que moi, je sais absolument pas comment faire. D'ailleurs, pour les tables rondes, hein, c'est vraiment toi qui vas gérer ça ce week-end, parce que moi, je sais pas du tout faire ça. Et du coup, parfois, ça arrive que voilà, tu me dis, voilà, t'enregistres cette vidéo, par exemple, j'en ai pour un quart d'heure, et lui, pendant un quart d'heure, il s'en va, et donc là, moi, je peux être partie, bah finalement, la vidéo fait une demi-heure. Et donc, après, il faut que tu fasses toi du...
Eh oui.
Faut que tu coupes toutes mes conneries.
Couper les conneries, les hésitations, les blancs, faire les incrustations des documents...
Oui, parce que dans celui-là, il y a une nouveauté, c'est que comme j'ai une tablette maintenant, dans cet atelier, contrairement aux autres, où en fait, tu incrustais le document...
On filmait par-dessus le papier que tu étais en train d'écrire.
C'est ça. J'écrivais, tu me filmais en train d'écrire sur le document, alors que là, on a fait deux films en même temps. On me filmait sur ma tablette, en même temps, tu filmais mon visage qui parle, et toi, tu as fait après des allers-retours.
Voilà, donc c'est pas mal, ça permet d'avoir quelque chose d'assez propre.
Ah, bah moi, je trouvais que c'était joli ce que tu avais fait là, avec tu mets ma tête en bas, on me voit écrire sur la tablette quand j'explique les documents. Hein. Je trouvais que tu fais du bon boulot, alors que c'est pas ton métier d'origine, de faire du montage.
Merci, ça reste limité à ce qu'on fait dans Catherine Lapsy, mais ça passe. Je pourrais pas faire le prochain Michael Bay. Hein, ça, c'est...
En tout cas, t'y passes un temps dingue.
Ah ouais, ça prend un temps
ça
de fou.
Ça prend un temps de fou.
Ah ouais, là, j'ai fait plusieurs semaines à terminer entre 22 et 23 heures. Là. Je suis content que cet atelier soit enfin sorti. Et puis, une fois que, justement, on a notre atelier de prêt...
C'est pas fini,
parce qu'il faut... Il y a une phase où on passe sur Internet, où je dois créer une page de vente, où on doit faire un teaser pour l'atelier.
Pour vous expliquer, en fait, ce qu'il y a dedans à chaque fois, pour que vous sachiez si ça vous correspond ou pas.
Bah voilà, est-ce que c'est intéressant et, pour vous, etc.
Et puis aussi... là, à ce moment-là, il y a quelques temps, maintenant c'est plus le cas, parce que maintenant, en fait, tous nos ateliers sont... Enfin, on a nos grilles de prix, mais il y a eu toute une époque où on se prenait le chou sur le prix... et d'ailleurs le tout premier en fait il était beaucoup beaucoup moins cher, enfin en fait c'était pas possible de rester à ce prix là voilà, donc il a changé, donc maintenant on a notre grille de prix en fonction un peu du temps qu'on y a passé, c'est surtout ça,
voilà. Et puis aussi préparer des emails marketing pour vous avertir de la sortie de notre atelier. Donc il y a tout ça aussi, toute la partie marketing, c'est aussi un temps qui est c'est long à préparer,
c'est long, puis alors en plus pour le coup on n'aime pas ça.
On n'aime pas trop ça.
Enfin, c'est pas. On aime bien décrire notre atelier pour dire ce qu'il y a dedans, mais quand on se dit, bon, bah voilà, pour que les gens sachent bien ce qu'il y a dedans, il faut quand même. Enfin, c'est long en fait. Donc en fait, il faut savoir comment vous le présenter pour que vous puissiez savoir si ça vous correspond ou pas, et ça, c'est pas facile.
C'est pas facile du tout. Et en fait, moi, ça m'a fait porter un nouveau regard sur le métier de commercial. Parce que moi, je suis en tant que développeur, donc on crée le produit. Mais en fait, une fois qu'un produit est créé, s'il n'y a pas une équipe de commerciaux derrière pour faire connaître le produit et faire en sorte qu'ils trouvent sa cible, eh bien, tous les développeurs, ils ont bossé pour rien, en fait, finalement. Et donc, cette phase de marketing et de commercial, finalement, je trouve qu'elle est un peu plus importante pour moi maintenant. C'est quelque chose où j'ai un immense respect pour les gens maintenant qui sont capables de vendre quelque chose.
De manière, entre guillemets, éthique. C'est-à-dire parce qu'on a suivi des formations, nous, au début, parce qu'on n'y connaissait rien là-dessus, pour comment on fait pour faire connaître un produit et que, voilà, il puisse nous rémunérer. On a suivi des trucs, on a dit non, on va pas faire ça.
Hein. Par exemple, il y a un des leviers qui est très utilisé, c'est la culpabilité. Ouais, c'est faire en sorte que vous ayez l'impression de pas être suffisamment bien ou bon.
Si vous achetez pas ce qu'on
si
fait.
Si vous achetez pas. Voilà.
J'ai dit, attends, moi je suis psy, je vais pas jouer. Non, moi je voulais décrire le truc, que vous sachiez exactement ce qu'il y a dedans. Donc on vous en décrit bien sûr les avantages, parce qu'évidemment, on fait un truc on y croit. Enfin, je veux dire, on fait un. Enfin, c'est un vrai boulot, quoi. Enfin, en tout cas, disons que moi, je pense beaucoup. En tout cas, par exemple, quand je fais un truc pour les professionnels, donc c'est le deuxième atelier pour les pros, moi, je pense beaucoup à ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, tu vois. Donc, c'est vraiment un truc. Voilà. Donc, on va décrire les avantages. Maintenant, dire c'est le truc le plus fantastique de la Terre, et si vous l'achetez pas vraiment, mais vous allez pas réussir à faire. Non. Mais par contre, vraiment, c'est véridique. Enfin, je sais pas, les personnes qui nous écoutent, je sais pas s'ils nous croient, mais je vous assure, c'est vrai. Dans des formations marketing qu'on a suivies, on nous a dit de faire ça.
Ouais. Et oui,
donc... De même de dire que c'était le truc le plus génial, que vous trouveriez rien de mieux ailleurs, que ceci, que cela, non, pas possible. Quoi.
Oui, pas possible.
Mais par contre, je suis d'accord avec toi, moi aussi, ça m'a un peu réhabilité ce métier de commercial, où pour moi c'était un peu vendeur de tapis, tu vendrais ta mère, ou ton short usé avec un trou dedans. Voilà, je me suis dit, non, en fait, c'est pas que ça, tu peux tout à fait faire un marketing éthique, c'est-à-dire faire connaître ton produit, et ça demande de l'énergie, en fait, puisque, comme on disait, les algorithmes, ils montrent pas forcément ton truc, puis les gens, c'est normal, quand avant d'acheter quelque chose qui vaut plusieurs centaines d'euros, bien sûr, tu veux savoir de quoi il retourne pour pas te gourer, quoi. Donc c'est un métier aussi, voilà, de savoir comment expliquer correctement aux gens ce qu'il y a dedans, voilà.
Et puis même après, voilà, de proposer, parce que c'est pas simple d'arriver avec une création et d'arriver devant des gens en leur disant, voilà, on a fait une création, on en est assez fiers et ça mérite que vous regardiez. Ça demande aussi un travail sur soi, d'exposer finalement...
Ah oui, parce que tu t'exposes aussi à la critique. Hein, ça.
Ah oui,
ça. Des gens... Alors nous, on a de la chance, je trouve, on n'a pas de mauvais retours sur nos ateliers. On n'a pas de trucs... voilà. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, on en a, quoi. Ou par exemple, la première fois qu'on a proposé un produit à la vente, mais moi je me suis fait insulter, en fait, hein, vraiment. Hein, et j'ai été super mal.
Là, il y a de quoi.
C'est pour ça, en fait, c'est la raison pour laquelle, par exemple, sur Instagram, quand je parle des ateliers, maintenant, il n'y a plus le prix. Parce que quand je l'ai fait, je me suis fait insulter. Moi, je ne voyais pas le problème. Enfin, je veux dire, pour moi, c'était honnête de dire combien ça coûtait. En plus, on était sur un atelier en ligne, donc nos ateliers en ligne coûtent 69€. Donc, pour moi, c'était le prix d'une consulte, en fait. Sauf que ça dure plus longtemps, et voilà. Et puis, il y a plus de travail derrière. Enfin, il y a vraiment beaucoup de boulot derrière. Mais, a priori, ça avait dérangé la personne. Elle trouvait que c'était beaucoup trop cher. Et elle m'a accusé de voler les gens. Alors, ça m'a fait hyper mal au cœur parce que, pour moi, j'avais vraiment bossé pour ce truc, en fait. Et à côté de ça, j'avais fait plein de contenus gratuits. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, écoutez, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter si ce thème ne vous convient pas ou si vous estimez que peut-être ce n'est pas assez pointu ce que je vais apporter. Mais dans ce cas, consommez mon contenu gratuit. Mais venez pas m'insulter. Enfin, ça a été très douloureux. Donc du coup, c'est pour ça que vous ne voyez plus sur Instagram les prix qui sont plus que maintenant sur le site.
Effectivement.
Mais après, je comprends un peu dans un sens où moi aussi, avant, j'avais des préjugés sur ce que c'était, comme tu l'as dit, en fait, vendre quelque chose. Mais vendre quelque chose, ça dépend de qui le fait et comment c'est fait. Alors après, nous, on estime que... On a même fait des trucs un peu... j'avais fait des trucs une fois, un Black Friday. Bon, d'ailleurs, on le fait plus, ça, parce qu'on trouve que ça nous plaît pas.
Non, mais on fait très peu de réductions sur nos ateliers, parce que...
Parce qu'on a mis les prix, en fait, qui nous permettent d'être suffisamment rémunérés. Et si vous voulez un ordre d'idée, voilà, c'est pareil.
Je trouve que c'est aussi peu éthique de faire en sorte que le vrai prix soit toujours barré, genre un atelier qui coûte 100 euros, où il y a marqué 100€ barré avec marqué 80 en dessous et que ça soit tout le temps comme ça.
Oui, tu te demandes si c'est le vrai prix, quoi.
C'est pas du marketing éthique. Même il me semble que c'est pas tellement autorisé par la loi et qu'il y a des grands comme Amazon qui se sont fait tirer les oreilles il y a pas longtemps là-dessus. Mais voilà, donc nous...
Nos offres de lancement, on a 15%, ça, on ne vous fait pas 40%.
Ça n'arrive, et ça n'arrivera jamais sur la Catherine Lapsi.
Ça n'arrivera jamais parce que vraiment, le prix qu'on vous met... alors bien sûr, il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher, et je peux comprendre. Il y a aussi des collègues qui trouvent que c'est pas assez cher parce qu'ils connaissent le boulot, tout le boulot qu'il y a derrière. Après, nous, comme on a quand même... on bosse beaucoup, donc on a quand même une audience, donc... Peut-être que les prix sont... En tout cas, nous, on ne les trouve pas excessifs du tout par rapport au travail qui est fourni. Mais comme on a pas mal d'audience, on a quand même pas mal de ventes qui, du coup, ça nous rémunère. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette rémunération, par exemple, au total, quand on divise, donc on touche notre chiffre d'affaires, je ne donnerai pas ici pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure.
On peut donner un chiffre random. Imagine tu gagnes 1000. Voilà.
Non, mais je vais expliquer quand même. Mais je veux juste expliquer pourquoi je ne donne pas le chiffre. C'est pour la raison que je viens de donner à l'instant. C'est que voilà, quand je l'avais fait de manière naïve sur Instagram, entre ceux qui trouvent... Enfin, moi, je n'ai pas envie de me faire insulter parce qu'il y a toujours des gens qui trouvent que c'est trop et d'autres qui trouvent que ce n'est pas assez. Et voilà, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que juste sachez que par rapport à ce qu'on gagne, donc on a un chiffre d'affaires donc, qui est le montant de ce qu'on touche avec les ateliers qu'on fait. On le divise par deux parce que on a les charges, donc c'est à peu près 50%, les charges entre l'URSSAF, tout ce qu'on doit payer, Et ensuite on divise par deux parce qu'il y a Fabien et moi qui devons être payés.
Et moi je paye en plus la TVA.
Et toi tu payes la TVA en plus dessus.
Ça fait qu'on gagne, on gagne pas l'argent qui est marqué.
Oui, c'est pas l'argent du chiffre d'affaires, clairement. En tout cas, je suis moins rémunérée au taux horaire avec Catherine Lapsi qu'au cabinet. Si ça peut donner une idée aux gens. Après, j'estime que ça reste quand même ce qu'on appelle nous rentable, c'est-à-dire que ça nous rémunère à hauteur on estime suffisant. Voilà. Après, on n'a pas un grand train de vie, donc ça nous va. Voilà. Par contre, déjà, je gagne beaucoup moins que quand je gagnais au Trésor public depuis que je suis psy. Et puis, par rapport à ça, si je voulais gagner beaucoup plus, je ferais que du cabinet. Après... c'est aussi sympa, je trouve, de pouvoir varier les activités. C'est très fatigant d'avoir des cabinets, même si vraiment... d'avoir des patients, notamment présentiels. Moi, j'arrêterai jamais, parce que c'est vraiment le truc qui me plaît. C'est fatigant aussi. Et donc, faire de l'enseignement, même si c'est aussi beaucoup de travail, c'est varier un peu l'activité, et c'est pas mal.
Alors, on va parler aussi des frais qu'on a, parce que faire Catherine Lapsi, ça engage un petit peu de sous, quand même. Il y a les frais, on va dire, directs, parce qu'on est obligé d'investir en termes de matos, genre le micro dans lequel je suis en train de parler en ce moment. Il y a aussi d'autres trucs, comme les caméras. Alors, on a fait le choix de ne pas prendre de caméra. Nous, on est plus sur des
téléphones. Tu m'as fait acheter téléphones. Un iPhone. Même si c'est pas le dernier, j'aurais jamais acheté ça. Moi, je suis pas une geek. Fabien, il adore acheter. C'est un développeur, c'est normal. Mais dès que tu me changes mon téléphone, j'aime pas.
Voilà, ton téléphone, il était mort de toute façon, donc on a
pris... Il était pas du tout mort, il pouvait durer encore longtemps, mais tu m'as fait acheter ça, parce que c'est vrai que l'iPhone fait
des belles vidéos.
Mais alors moi, j'ai dû me réhabituer à tout un fonctionnement, j'ai grogné pendant un petit temps.
Voilà. Donc on filme sur des iPhones, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il a fallu qu'on achète un ordinateur, que j'achète un ordinateur, parce que le dernier que j'avais, je lui ai donné du thé à boire
lors d'un montage. Surtout que tu avais acheté un ordinateur, parce que les gens pourraient se dire, il est dev, il a besoin d'un ordinateur, mais par contre, il n'était pas assez puissant pour faire le montage.
Il faisait du montage, mais il le faisait beaucoup moins que celui que j'ai maintenant, donc j'ai pris une bête de course là. Et
qui permet de, parce que sinon tu passais 10 plombes à faire la moindre vidéo, et là tu passes toujours 10 plombes, 5 plombes maintenant.
Non, mais c'est-à-dire que l'ordinateur, il faut qu'il soit performant, sinon quand on fait un montage, je fais une coupure à un endroit, je fais une coupure à un autre endroit, et j'aimerais supprimer un passage, et bien ça, s'il met 5 secondes à charger, 5 secondes ou même 2 secondes, c'est pas très long, mais quand on cumule ça pour multiplier par une centaine, 100, 200, 300 opérations, il n'y a que de devenir fou, quoi. Donc j'ai pris cette fois-ci un bel ordinateur pour faire les montages pour YouTube. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, je crois qu'on a fait les coûts fixes,
le matériel qu'on a acheté. Tout, ouais.
Voilà, des petites lampes aussi.
Depuis qu'on a invité Julien Bess, il était venu avec ses petites lampes et ça nous a fait envie.
Voilà.
Donc maintenant, quand vous voyez sur nos vidéos YouTube ou sur les ateliers, vous voyez un petit fond avec une petite lumière, et c'est inspiré de Julien Bess.
Voilà, on était jaloux de ce qu'il faisait, donc on a piqué l'idée.
On lui a demandé, il a bien voulu, on lui a demandé si on pouvait acheter la même truc que lui, c'est même lui qui nous a donné la ref.
Alors sinon, quand on continue cette fois dans les frais récurrents...
Les frais récurrents, il faut qu'on paye la plateforme sur laquelle il y a... Il y a
les ateliers.
Les ateliers.
On a 40 euros par mois.
40 euros. Mais peut-être que dans pas si longtemps, on va devoir passer au-dessus, parce que je crois qu'au bout d'un certain nombre d'ateliers, tu dois payer plus cher.
Je crois pas. Je crois qu'on reste sur 40 euros par mois.
Disons que les personnes qui achètent les ateliers, bon, ça rémunère ça. Mais par contre, la lettre psy...
Là, en revanche, c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est pas le même prix, déjà.
C'est pas le même prix. Là, il me semble qu'on est à 1200 euros par an.
Ouais.
Donc, ça commence à faire un petit chiffre pour vous envoyer des emails. C'est pour ça que, des fois, je vous envoie un message. Si vous ne les ouvrez pas, je vous envoie un message. Eh oh, si vous ouvrez pas, on vous supprime. Parce que, bah, au bout d'un moment, ça commence à faire.
Parce qu'en fait, on a vu, pour les gens qui ne savent pas, parce que moi, j'ai découvert que pour envoyer des mails à plein de personnes, tu dois payer, en fait. Parce que c'est des logiciels. Si on devait ne le faire à la main, laisse tomber. ça serait beaucoup trop long, donc on doit utiliser des logiciels. C'est pour ça que vous voyez GetResponse chez nous, mais chez d'autres c'est SendingBlue. Au début on avait MailChimp et tout, et en fait en fonction du nombre d'adresses qui sont inscrites, bah, vous payez plus cher. Et donc on a eu un passage à 2005, après à 5000. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois vous nous voyez faire du ménage dans les adresses, parce que les gens qui n'ouvrent pas, bah, vu que ça nous coûte des sous, voilà, les gens qui n'ouvrent pas, on prévient toujours, hein, on n'enlève pas les gens sans prévenir. Et donc là, quand on est passé à 10 000, bah, alors là on est passé au forfait, je crois que c'est le forfait le plus haut, il n'y en a plus,
on peut encore grandir.
Donc c'est combien le prochain palier, 25 000
Je crois que c'est 20 000, un truc comme ça, ou 25 000,
bon, tu as
peut-être raison. Bon, pas de diète du coup. Hein. Le site internet, sinon, c'est presque rien, c'est genre 15 euros par an.
Oui, et puis alors le site internet, il a été fait par un super développeur.
Donc j'ai toutes les combines, donc ça coûte
payé.
Pas cher.
On l'a pas payé. Enfin si, tu te rémunères avec les ateliers, bien sûr, mais t'as fait le site internet et puis tu bosses pas mal, parce qu'à chaque fois qu'on a un nouvel atelier, il faut que tu bosses dessus. À chaque fois qu'on a un nouvel événement, il y a les tables rondes, donc tu as enlevé le livre, parce qu'avant c'était mon livre, je crois qu'il était sur la...
Il reviendra,
mais là, c'était mon livre. Et là, tu nous as mis... Donc à chaque fois qu'on fait un événement, toi, tu dois travailler sur le site...
Voilà, on a quoi ? On a Zoom aussi qui nous permet de faire nos ateliers en live, donc c'est des ateliers en direct.
Voilà, mais ça c'est mon cabinet qui paye.
Ça c'est ton cabinet qui paye parce que tu utilises Zoom aussi
pour mes visios, ouais.
Pour tes visios. Donc c'est quand même 140 euros par an, ça aussi. C'est
par an ?
Eh oui.
C'est pas cher, je savais même pas que je payais ça, tu vois.
Bah tu vois, bah, je te le dis. Et il y a aussi Caption qui est un logiciel que j'utilise pour faire les sous-titres dans les vidéos, les petites vidéos, les reels. Parce que ça, faire les sous-titres, c'est l'enfer. Horrible.
Je t'entendais râler quand tu faisais ça.
Ah, c'est nul. Et là, Caption, c'est un logiciel qui, à partir de... Grâce à l'IA, finalement, nous permet de faire des sous-titres automatiques et qui sont plutôt bien faits. En tout cas, avec moins de fautes d'orthographe que moi, ce que je fais.
T'es obligé de corriger quand même les fautes ?
Ah oui, je suis obligé. Alors, les fautes, non, il en fait moins que moi.
Ah bon ?
Ben, ça, c'est pas dur. mais surtout, les trucs que j'ai à corriger, c'est soit quand tu mâches tes mots, là...
Est-ce que je suis un peu spécialiste ? Bon, mais je pense qu'on n'apprend rien aux gens qui nous connaissent. Déjà, je parle très vite. Et pourtant, vous êtes plusieurs à m'avoir dit à plusieurs reprises. Donc j'essaye, hein, je vous assure que j'essaye de parler moins vite, mais au bout d'un moment, je me fais toujours rattraper. Et du coup, des fois, je mâche un peu, mais je mange mes mots, quoi.
Voilà, ou alors quand il y a des noms de famille, quand il y a des noms d'approches de thérapie, par exemple le MDR, ça, c'est quelque chose, je le corrige à chaque fois.
Et il n'est pas intuitif, c'est-à-dire qu'une fois que tu as corrigé un truc, après, il ne le garde pas en mémoire.
Non, il ne garde pas en mémoire. Mais il est quand même bien fait. Mais
tu vas nous en acheter un autre, alors.
Non, mais j'aimerais bien que ce soit plutôt les TikTok, les Instagram et tout ça qui proposent leur propre logiciel, plutôt qu'on soit obligé d'en acheter un pour que ça soit bien fait. Donc, ça serait une belle évolution de leur plateforme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos frais, là. Alors, on va passer maintenant à la partie comment est-ce qu'on produit notre contenu, justement, sur les différentes plateformes. Donc, on a dit Instagram, YouTube, podcast, Lettre Psy. Non, je n'en ai pas oublié, je crois.
Bon, on est sur TikTok, mais en fait, on ne fait rien. On met juste nos vidéos sur TikTok.
Oui, c'est vrai que ça.
Mais on ne développe pas du tout.
Et donc, alors, comment ça se passe ? Donc, on a des rôles, quand même, qui sont assez, assez carrés. Alors, au niveau de la réponse aux mails et aux messages, on va commencer par ça, déjà, quand vous écrivez sur notre mail, Catherine Lapsy, ou via Instagram, parce que c'est là les deux endroits où, finalement, vous pouvez nous contacter assez facilement. Eh bien, il y a des chances que ce soit moi qui vous réponde, parce que voilà, moi, je prends un temps pour ça, et Catherine, elle a...
Et on répond à tout le monde à ce jour.
On répond à tout le monde.
Ce qui est beaucoup de travail aussi.
Donc voilà, c'est beaucoup de travail. Donc en général, c'est moi qui réponds au message. Donc c'est vrai que peut-être que vous avez des fois l'impression que vous allez avoir Catherine qui va vous répondre directement. Eh bien, ça n'arrive pas si souvent que ça, ou alors ça veut dire que c'est moi qui suis complètement sous l'eau, et Catherine me donne un coup de main pour répondre à tous les messages.
Et quand
en tout cas, je les signe, hein, bien. Je les signe
oui,
Fabien,
tu signes,
bien
vous
sûr.
Savez quand c'est Fabien.
Voilà, voilà. Il y a pas de...
C'est vrai que moi, quand je le fais, moi, les quelques fois que je le fais, j'oublie de signer. Donc, si c'est pas signé, c'est que c'est moi.
Voilà, donc ça, c'est la, une première partie, on va dire.
Il y a juste quelques messages parfois quand tu me dis je t'ai laissé deux messages parce que bah, voilà, c'était trop technique.
Trop technique
pas,
pour
je,
moi.
Ouais. Je n'ai pas pu répondre, mais sinon, c'est Fabien.
Voilà, donc ça, c'est en général, je commence ma journée, moi, avec ça, j'ouvre l'ordinateur, je fais ces trucs-là, comme ça, j'ai plus à y penser. Et ensuite, on a une réunion aussi qu'on fait
tous
les lundis matins avec le café et le thé pour moi. Et on définit un peu les sujets qu'on va avoir envie de traiter et sur quelle plateforme on va les faire. Donc, est-ce qu'on fait un podcast? Est-ce qu'on fait un YouTube? Et on essaie de se mettre d'accord sur les sujets qu'il va y avoir sur les Reels. Qui va écrire
On publie deux par semaine. Alors maintenant, comme l'algorithme a rechangé, on a repris un peu des posts, parce que nous, on aimait bien les posts, on était passé aux Reels, parce que sinon, plus personne nous voyait. Et là, du coup, on fait un Reels, un post en ce moment, par semaine.
Voilà. Et puis voilà, donc on essaie aussi d'être déterminé dans la lettre psy combien Catherine va écrire d'articles, combien Fabien va écrire d'articles, qui fait la citation.
Voilà, on évalue en fonction soit des sujets qu'on avait en tête, soit du temps qu'on a, parce que bah, par exemple, si Fabien est en formation, bah, je vais écrire peut-être un peu plus. Si c'est moi qui ai beaucoup de consultes dans la semaine, c'est lui qui va écrire un peu plus. Bon, voilà, on détermine ça. Voilà.
Ouais. Et puis voilà, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on arrive sur une phase où on va produire le contenu. Donc
pendant un jour et demi, oui.
Pendant un jour et demi, 2 jours pour moi en tout cas, 1 jour et demi pour toi. Et ça dépend un petit peu aussi, parce que quand on a une vidéo YouTube qui sort, je travaille toute la semaine sur Catherine Lapsy, parce que la vidéo YouTube, ça prend énormément de temps finalement à monter, à mettre des incrustations, à couper chaque phrase qui va pas, parce qu'il faut que ça soit un petit peu percutant, créer la vignette.
La vignette, c'est l'image hein, que vous voyez quand...
Avant de cliquer,
oui.
Voilà, donc il faut qu'elle donne envie de cliquer.
Il faut trouver le titre,
trouver le
casse-tête.
La description, faire le chapitrage.
Parce que, en fait, figurez-vous, peut-être vous ne le savez pas si vous en faites pas, mais nous on a découvert ça en tout cas en faisant tout ça. C'est que par exemple, vous faites une vidéo YouTube, si vous prenez la dernière sur le trouble borderline, le sujet, enfin l'intérieur de la vidéo peut être le même. Vous faites 3 titres différents. Vous avez un titre où votre vidéo elle marche pas du tout, un titre où elle marche moyen, un titre où elle marche hyper bien. Donc en fait, bah, évidemment, quand vous avez fait du contenu que vous trouvez estimé intéressant, en plus cette vidéo m'a pris vraiment du temps parce que j'ai fait pas mal de recherches justement pour pouvoir vous la faire de manière pédagogique et j'avais expliqué que toi tu me l'as fait refaire 4 fois ou 6 fois parce qu'elle te convenait pas, tu trouvais que c'était pas assez pédagogique. Enfin bref, c'était une grosse vidéo. Tu sors ça, t'as envie que ça marche quoi. En plus, on n'a pas un gros compte YouTube donc t'as envie que ça marche. Donc le titre, c'est une prise de tête incroyable.
Le titre, la vignette aussi. On pourrait passer plus de temps à faire la vignette, hein. En général, c'est la dernière étape du processus. C'est là où j'ai le moins d'énergie après, une fois que j'ai fait tout le travail. Donc,
on peut pas mettre de l'énergie sur tout. Et on essaie de la mettre déjà dans le contenu, puis après, pour donner envie du contenu, en vrai, c'est des métiers. Hein. Il y a des gens qui font ça, c'est leur métier.
Voilà. Et en même temps aussi, on a quand même le dilemme du putaclic où qu'on a envie d'éviter.
Donc putaclic, vous savez, c'est les titres, le truc à faire si vous voulez.
Si vous voulez changer votre vie.
Voilà, c'est les trucs qui ouais, putaclic quoi.
Voilà, ou
tu vends ta mère. Pour
demain j'arrête.
J'ai quelque chose à vous dire.
J'ai quelque chose à vous dire. J'ai tout plaqué pour 3 petits points, et donc on est obligé de cliquer sur la
vidéo. Donc,
ce genre de.
On n'aime pas trop nous.
On n'aime pas trop, forcément on part avec handicap. Et même pour la vignette, donc je vais expliquer aussi que c'est un élément de cliquage qui est hyper important. Et c'est pas mon métier de faire du graphisme non plus, donc je suis pas forcément un pro du Photoshop et tout ça. Donc des fois, j'ai des résultats un petit peu moyen, mais bon, on fait avec ce qu'on a, quoi.
Ouais. Donc voilà. Et puis par contre, les stories, ça c'est que moi.
Ça c'est toi.
Il y a de temps en temps, vous reconnaissez Fabien dans les stories parce qu'en fait, on n'a pas la même police. C'est pas fait exprès, mais lui, il a la police, vous savez, où c'est un peu arrondi autour. Et en général, c'est quand il met un reels, parce que c'est lui qui poste les reels une fois qu'il les a montés. Et du coup, quand il met le reels en story ou le post en story avec un petit sondage, là en général, c'est Fabien. Mais sinon. C'est plutôt... alors là, pour le coup, story, toi, à part ça, tu t'en occupes pas du tout. C'est moi, en fonction de mon humeur. Tiens, tout à coup, j'ai une idée qui m'a popé dans la tête. Je fais un truc, donc voilà.
Ouais, mais c'est un peu ton terrain de jeu.
C'est mon terrain de jeu, la story.
La story, et ça tombe bien parce que moi, c'est quelque chose, je ne comprends pas. Par exemple, tout ce qui est un peu vlog, je ne comprends pas l'intérêt du truc, ouais. Alors que toi, t'adores.
Moi, j'adore regarder des gens. Alors moi, je vais pas faire des vlogs de ma journée de psy, ce serait pas... Enfin, ouais, moi, je pense pas... Je saisirais rien d'intéressant puisque je pourrais pas filmer les séances, donc ce serait pas intéressant. Mais par contre, moi, j'aime bien suivre des gens, alors qu'ils sont pas forcément psy, mais voilà... je sais pas, des artistes par exemple, comme ça, qui expliquent comment ils organisent leur journée, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs pensées, qui leur traversent l'esprit. Moi j'adore effectivement ce genre de vidéos.
Alors que moi vraiment je m'en fous. Et même limite, je trouve ça presque indécent d'exposer ça. Enfin, ça pour moi ça n'intéresse personne, je mets des grosses guillemets entre.
Vas-y, ça m'intéresse moi.
Et toi ça t'intéresse, donc je pourrais pas
moi,
faire
je pourrais
du
faire, je voudrais un blog sur la journée de Fabien de Catherine Lapsy, qu'est-ce qu'il fait quoi.
Oh mais quel ennui.
Mais non, mais pas du tout, je suis sûre que ça se trouve ça inspirerait des gens, parce qu'en plus toi tu te motives tous les jours à faire du sport, t'as une sorte de, toi t'as une discipline contrairement à moi qui suis un peu one again, t'es un mec discipliné, donc c'est sûr que tu manges bien, enfin t'essayes en tout cas.
Moi, je mange bien entre les sucreries, ouais.
Non, ça se trouve, ça inspirerait des gens. Bon, évidemment, on va pas faire ça, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, moi, j'aime bien les vlogs, lui, il aime pas. Donc, du coup, on a trouvé... Parce qu'on avait essayé de faire des espèces de pseudo-vlogs quand je partais en formation pour que j'explique, mais en fait, je sais pas, ça rendait pas, c'était pas... On n'a jamais publié ça, parce que ça... ce que j'avais filmé, ça allait pas. Donc, je vous avais plutôt fait des retours bah, dans nos autres médias. Mais voilà, du coup... sur les stories, ben ça me permet voilà, moi de un truc qui me passe par la tête, je le partage facilement en story et moi j'aime bien ça.
Et après arrive là aussi donc on reste un peu dans le monde Instagram, mais lié aussi à YouTube et à TikTok parce qu'on produit donc des contenus vidéo, donc des petites vidéos d'une minute qu'on appelle ça les reels.
Sur Instagram, Instagram shorts sur YouTube.
Voilà, donc on va dire les petites vidéos. les petites vidéos, donc on a un processus un peu différent, c'est-à-dire que maintenant on essaie de les faire à la chaîne, c'est-à-dire que Catherine va en tourner, va imaginer un Reels, enfin 4 ou 5 Reels.
Oui, j'en tourne plusieurs.
Et on en tourne plusieurs, et moi j'en monte plusieurs à la suite.
Bah là, dernièrement, on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait l'atelier, il y avait trop de boulot, donc on boulot. Est un peu à la semaine.
La routine
la semaine.
Est pétée, mais globalement, c'est quand même plus facile d'avoir, donc il y a un contenu, tout notre contenu un certain jour, et de les publier au fur et à mesure de la semaine. Ça permet d'éviter d'être tout le temps dans l'immédiateté, dans le rush, et d'être en galère. Donc ça, c'est une des techniques qu'on a apprises et qui marche bien.
Pas mal, ouais.
Qui marche bien, mais en revanche, ça demande une certaine rigueur qu'il faut avoir pour se dire, bon bah là je fais que des reels pendant toute la matinée. Et puis voilà. Donc on a fait les reels, donc il nous manque la lettre psy, donc on en a parlé, hein, on répartit nos articles.
Aussi, je voudrais juste quand même préciser un truc, c'est que dans nos contenus, il n'y a jamais de partenariat.
En
fait, parce que bon, en fait, quand vous faites du contenu gratuit, si vous y passez, une heure par semaine, ok, c'est pas forcément besoin d'être rémunéré, mais quand vous y passez beaucoup de temps au bout d'un moment et qu'il y a besoin d'être rémunéré, sinon bah, vous pouvez plus en faire autant, il y a trois manières de se rémunérer finalement sur les réseaux sociaux. Soit tu fais un Tipeee. Enfin, Tipeee ou quand on fait ou Patreon, ou enfin en tout cas les gens font des dons pour que tu sois rémunéré pour le travail gratuit qui est fait. Donc nous, on n'a pas choisi ça. Je sais pas pourquoi on n'a pas choisi ça. C'est vrai que mais, si moi à une période j'avais proposé, puis t'étais pas partant toi.
Moi je suis pas partant et quand je vois d'autres créateurs de contenu qu'on suit et qui galèrent visiblement avec ces plateformes là pour gagner un petit peu de sous, ben je me dis que c'est pas très très rentable. Et que ça, finalement, ça rend notre vidéo moins intéressante parce qu'on est obligé de faire la pub du Patreon, du Tipeee, etc.
Ouais, mais
tout
nous,
le temps.
On fait la pub de notre lettre psy, par exemple, de nos ateliers.
Ouais, mais notre lettre psy, c'est vraiment du contenu en plus que les gens, ils ont derrière. Donc voilà. En fait, quelque part, nous, on propose vraiment un produit, tandis que le Tipeee, ben, quelque part, c'est un peu donner un don. C'est un peu aussi comme un fonctionnement au chapeau qu'on peut avoir dans un spectacle. Alors il y a des gens qui apprécient ça, moi par exemple je n'aime pas de devoir mettre de l'argent dans un chapeau, je ne sais pas combien je dois donner,
Oui, ça te met mal à l'aise.
Ça me met mal à l'aise. En fait, je préfère aller voir un spectacle.
Tu sais combien ça coûte.
Ça coûte 10, 20, 30, 40, peu importe. Mais au moins, je sais combien je dois mettre et c'est facile pour moi, c'est carré. Donc, nous, enfin, moi en tout cas,
C'était toi, mais plus moi. À une époque, j'avais pensé à ça et toi, tu voulais pas. L'autre manière, c'est de faire des partenariats. Donc,
de gagner de l'argent, c'est sur les réseaux sociaux et de faire des partenariats des plus grosses boîtes. Quoi.
Ça veut dire que c'est des entreprises qui rémunèrent on appelle ça du coup les influenceurs. C'est ça les influenceurs, hein, c'est les personnes qui sont rémunérées par des marques pour mettre en avant ces marques. Alors maintenant, sur Instagram, ça doit être écrit. Pas que sur Instagram, en fait, ça doit être écrit maintenant. Mais ils ne le font pas tous. J'ai vu que ce n'était pas encore tout à fait... Mais voilà, ça va venir. Alors nous, ce n'est pas du tout un modèle économique qui nous convient. Parce que déjà, la plupart du temps... Alors il y a quelques exceptions quand même. Je suis quelques comptes, c'est un peu quelques exceptions. Mais la plupart du temps, en fait, ça promeut les grosses marques. Et donc, ça promeut une économie... sur des grosses boîtes parce qu'en fait il faut avoir de l'argent pour les donner à des influenceurs, c'est pas les petites marques ou des petits créateurs ou des artisans qui vont pouvoir le faire, donc il y a quelques exceptions quand même,
les grosses boîtes du CAC 40, des L'Oréal, des trucs comme ça, voilà, qui sont derrière,
donc nous c'était pas du tout notre façon de voir les choses. Et en plus, après, là où ça a été terminé pour moi, c'est que une fois j'ai fait une collaboration, c'était avec en plus c'était pour un produit, je vais même pas le citer parce que justement je vais vous dire pourquoi, c'était un produit que j'utilisais déjà moi-même et que je payais, et il m'avait proposé une petite rémunération. Alors on parle pas d'un truc, c'était je gagnais un mois gratuit, parce que c'est un truc avec un abonnement, je gagnais un mois gratuit plus une petite commission je crois sur l'abonnement de la personne qui était venue de ma part, donc c'était pas non plus, j'allais pas gagner ma vie avec ça, mais quand même j'avais fait ce partenariat.
C'était plus pour faire un test en fait, pour voir un peu comment ça fonctionnait aussi, le partenariat.
Pas forcément, c'est juste qu'ils sont venus me contacter et moi j'étais tellement convaincue par le produit puisque je l'utilisais tous les jours depuis longtemps, j'ai dit y a aucun souci quoi, c'est un bon produit, parce que moi au départ j'étais aussi sur cette idée que j'aimais pas avoir à mettre en avant des grosses boîtes. Et je me disais, ouais, mais en plus, les produits qui sont mis en avant, régulièrement, c'est de la merde. Enfin, quand tu vois dans certains partenariats...
Ou qui n'ont rien à voir. Par exemple, si c'est des cacahuètes des cahouets, t'es psy, t'as aucun lien avec ces domaines-là. Donc...
Alors que là, ça avait à voir. Ça avait à voir. Le produit m'avait convaincu et c'était une petite boîte. Donc, j'ai accepté. Et en fait, quelques semaines après, c'est une boîte qui a été épinglée dans Balance ta Startup. Donc, c'est-à-dire, en gros, qui maltraite ses employés. Et je me suis dit, putain, mais en fait, même quand tu connais le produit, même quand ça a un rapport, tu ne sais jamais ce qu'il y a derrière. Tu sais pas vraiment comment ça se passe derrière, à moins d'avoir étudié, et tu peux pas te mettre à étudier toutes les marques qui te contactent. Donc, terminé. Même dernièrement, j'ai fait une collaboration gratuite, donc juste, c'était un échange de visibilité avec un truc dont je croyais qu'il était pas mal. C'est pareil, j'ai appris après qu'ils avaient des techniques non éthiques pour, dans leur marketing. J'ai dit, c'est terminé, plus jamais. Je ne fais pas de collaboration, donc on en avait deux, une gratuite et une un petit peu rémunérée, et déjà qu'on n'était pas convaincu par le modèle économique de ce truc-là, donc vous ne voyez pas ça, tout ce qu'on vous propose, les bouquins, ou si je vous parle d'un truc, sachez que c'est jamais rémunéré, c'est juste ça m'a plu, j'en ai parlé, voilà. Et donc la troisième manière de se rémunérer, c'est d'avoir des produits à vendre, et c'est ce qu'on fait.
Voilà, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui reste encore dans notre production de contenu ? Le seul dont on n'a pas parlé, c'est celui que vous écoutez en ce moment, c'est le podcast. Le podcast, c'est à la base quelque chose que Catherine ne voulait pas faire. Et j'avoue, je t'ai forcé.
Mais parce qu'en fait, j'en écoutais pas, donc je me suis dit, est-ce que ça va marcher ? Puis en fait, c'est après la lettre psy, c'est le deuxième contenu qui marche le plus.
Oui, alors après sur les réseaux sociaux ça va, ça vient, l'écoute du podcast est assez régulière, et ce qui est assez dingue c'est que vous nous écoutez assez longtemps d'ailleurs, parce que ça fait à peu près 40 minutes que vous nous suivez, donc effectivement vous nous écoutez très longtemps. Et donc le podcast c'est en plus quelque chose qui est assez agréable à faire, parce que ça ne demande pas, on va dire, une préparation de dingue ou des coupures comme une vidéo YouTube, puisque nous on a plutôt... pris le parti en tout cas de dialoguer l'un avec l'autre comme si vous étiez avec nous dans une pièce, et donc on a nos hésitations, on les coupe pas, on a des fois des ratés, etc., on les coupe pas, donc c'est assez brut de découpage, donc assez plaisant finalement à produire et à réaliser. Donc moi j'avoue c'est mon média préféré, et donc je pense qu'on continuera le podcast, je m'accroche pour que le podcast continue Et a priori, c'est pas près de s'arrêter.
Bah, écoute, effectivement, ça fonctionne bien. En fait, la lettre psy et le podcast, c'est ce qui fonctionne le mieux. Après, sur Instagram, on a pas mal d'abonnés, mais ils sont pas tous hyper engagés non plus. Donc, bon, voilà, on a des abonnés. Mais en fait, on a eu un Reels qui a été un peu viral et qui nous a amené plein d'abonnés au mois de décembre, par là.
C'était pas le meilleur, en plus.
C'était
hein.
pas celui qu'on estimait le meilleur, mais bon, voilà, c'est l'algorithme. Et du coup, les gens qui sont arrivés sont pas tous ce qu'on appelle engagés, c'est-à-dire des gens qui interagissent vraiment, qui sont vraiment intéressés par le contenu. Donc, voilà. Donc, c'est pas... Je dirais pas que... Disons que maintenant, si on regarde un peu la visibilité ou l'engagement qu'on a, on a plus d'engagement sur la lettre psy que sur Instagram, malgré qu'on ait beaucoup plus d'abonnés sur Instagram.
Clairement, clairement.
Donc c'est pas le nombre d'abonnés qui fait, pour moi, le fait qu'on touche vraiment les gens avec nos contenus, quoi. Tu peux avoir... oui, enfin voilà, nous on a 93 000 aujourd'hui, on touche pas du tout 93 000. Alors de temps en temps, on va toucher 150 000, Instagram nous dit, ah, voilà, vous avez touché 150 000 personnes, mais la plupart du temps, on touche moins de personnes et on a encore moins de gens qui interagissent et qui sont soit qui like, donc ça veut dire qu'ils ont aimé le contenu, soit qui font un commentaire, donc ça veut dire qu'ils ont une précision à faire. Moi, j'aime bien aussi lire vos commentaires parce que parfois, je découvre des choses grâce à vous, vous apportez les précisions ou vous témoignez aussi, et donc ça aide les autres gens qui lisent les commentaires. Donc voilà.
Ok. Donc voilà à peu près toute notre production de contenu. Si vous avez envie de tous les retrouver, sur notre site internet, où ils sont tous répertoriés, donc catherinelapsy.com, tout attaché. Vous avez donc la lettre psy, un lien vers notre compte Instagram, un lien vers notre chaîne YouTube.
Spotify
aussi.
Pour le podcast.
Vous avez, mais bon, a priori, vous avez réussi, si vous nous écoutez, c'est que vous avez réussi tout seul à vous en sortir. Et puis aussi, bien sûr, vous avez aussi nos ateliers en ligne, avec donc le dernier qui vient de sortir donc, sur le plan de traitement, un atelier qui est destiné aux professionnels de la psychologie, mais il y en a d'autres aussi qui ne le sont pas, donc qui sont accessibles à chacun et chacune.
Bah, c'était d'ailleurs notre parti pris de départ, c'était qu'on n'avait pas pensé spécialement s'intéresser aux pros, c'est parce qu'on a eu des demandes, mais en fait, au départ, nos ateliers étaient plutôt destinés aux personnes qui, pour tout un tas de raisons, n'osent pas aller voir un psy, parce que voilà, ils ont peur de... pas être entendu, pas être compris, ou bien ils ont honte, etc. Donc ça permet de montrer le type de travail qu'on peut faire en thérapie. Et voilà, et moi, quelque part, la reconnaissance, c'est quand les gens disent bah, « j'ai fait votre atelier, ça m'a convaincu que la thérapie, ça pourrait m'aider, et j'ai osé prendre rendez-vous. » Alors ça, je me dis « bon,
tiens,
ça c'est beau.
» Bien, et bien merci de nous avoir écoutés, et on vous donne rendez-vous donc bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça nous fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup et à bientôt.